Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas le mal à son prochain, il ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Qui peut avoir accès à la présence de Dieu? Qui peut demeurer dans la présence de Dieu? Pas seulement avoir accès, mais demeurer. Qui peut se sentir assez saint, assez pur pour s'approcher de Dieu? Personne. Personne. Devant la présence du Seigneur, même le prophète Isaïe disait « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » À la lumière de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu, il est difficile de se sentir propre pour entrer en la présence de Dieu. Si nous devions nous approcher de Dieu ce matin, sur la base de tout ce que nous sommes et sur la base de toutes nos œuvres, de notre propre pureté, nous serions nombreux à ne pas nous estimer dignes, à ne pas nous sentir dignes de nous approcher de notre Dieu, de venir dans la présence de notre Dieu. Malgré notre réalité humaine, notre réalité de péché, notre péché qui nous marque profondément, David pose la question au Seigneur pour savoir qui sera reçu dans sa tente, qui demeurera sur la montagne sainte. Au temps de David, la tente abritait l'arche de l'Alliance de Jérusalem. Et elle rappelle aux Israélites cet endroit provisoire, avant la construction du temple, qui est le tabernacle où Moïse pouvait entrer pour rencontrer le Seigneur. La montagne sainte, quant à elle, rappelle aux Israélites le mot Sinaï, cette montagne Sinaï, où l'alliance avec Moïse et avec tout le peuple a été conclue par le Seigneur et sans qu'elle, le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Sans cette alliance, les Israélites n'auraient aucune chance d'avoir accès à la présence du Seigneur. D'une manière générale, la montagne sainte dans l'Ancien Testament évoque le lieu où Dieu se vient à la rencontre de son peuple ou de ses serviteurs, comme c'est le cas pour Élie, pour Moïse, pour Élie, et ainsi de suite. Aussi bien la montagne sainte que la tente renvoient donc à ce lieu où le peuple du Seigneur peut avoir accès à la présence de son Seigneur, où il peut rencontrer le Seigneur, il peut séjourner, demeurer auprès du Seigneur. David pose la question de qui pourra entrer et demeurer dans la présence du Seigneur. Et au psaume 24, il reposera la même question. Qui montera à la montagne sainte, à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Le psaume 24, verset 3. Et David n'est pas le seul à poser, à vrai dire, cette question dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Beaucoup d'autres de serviteurs du Seigneur, de prophètes, Isaïe lui-même avait posé cette question au chapitre 33. Mais d'autres prophètes l'ont aussi posé. Qui peut être au bénéfice de la présence du Seigneur? Telle est la question aussi que nous devons nous poser, nous, chacun d'entre nous. Telle est la question à laquelle nous devons nous donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir apporter des éléments de réponse. Telle est la question qui doit retenir toute notre attention, préoccuper notre esprit avant de passer à une autre question. Je me rappelle encore, juste avant ma conversion, à une période où j'étais en recherche, je commençais à lire, c'était la première fois que j'ai eu le Nouveau Testament, Et je me rappelle avoir été préoccupé, complètement habité, mon esprit était habité par cette question. Quel est le chemin qui mène vers Dieu? Qui peut s'approcher de Dieu? Sur quelle base peut-on s'approcher de Dieu? Il y a des questions qui méritent, et parfois simplement qui exigent, de nous une grande attention, et en particulier les questions importantes de la vie. Il y a certaines questions importantes de la vie, peut-être pas toutes, mais certaines, et méritent vraiment, exigent même de nous une grande attention si nous voulons apporter des éléments de réponse qui peuvent nous aider à avancer et à grandir. Et la question posée par le psaume, par David, au début de ce psaume, en fait partie de ces questions importantes. Qui sera reçu dans la présence de Dieu? Qui demeurera dans la présence de Dieu? Les versets 2 à 5 de notre psaume dressent justement un portrait d'un homme intègre, de celui qui peut prétendre à la présence du Seigneur, l'homme ou la femme qui répond à une série d'exigences qui sont toutes d'ailleurs d'ordre social ou moral. Il est à noter que ce ne sont pas des exigences rituelles, c'est-à-dire ce ne sont pas d'ordre rituel qui sont rappelées par Moïse dans le livre de Lévitique pour s'approcher de Dieu. Moïse avait dit à son peuple de faire toute une série de rites pour se laver les mains, etc., de purification pour se préparer à s'approcher du Seigneur. En effet, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu avec légèreté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il évoque justement cette rencontre de Dieu avec son peuple, au mont Sinaï, il dit « Même Moïse s'est écrié, je suis épouvanté et tout tremblant. » Même Moïse, c'était dans Hébreux 12. On ne s'approche pas de Seigneur n'importe comment. Encore de nos jours, dans certaines religions, comme par exemple dans l'islam, pour s'approcher de Seigneur, il faut avoir fait préalablement toute une série de rites, d'actes rituels, comme les ablutions, etc., et le faire à des horaires bien précis, dans un cadre bien précis. Dans notre psaume, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien de tous ces rites à faire pour s'approcher du Seigneur. Au contraire, l'accent est mis sur le cœur de l'homme. Et le portrait qui nous est donné, c'est un homme intègre. Il n'y a rien de ces rites, de ces pratiques extérieures qui soient mentionnées. Cette intégrité se manifeste aussi bien en acte qu'en parole. Et en gros, les versets 2 et 5 décrivent cette intégrité qui s'exprime par des actes concrets. Et les versets 3 et 4 décrivent une intégrité qui s'exprime dans les paroles et dans les propos tenus par cet homme intègre. Un homme intègre dans ses actes est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. L'intégrité et la justice sont définis comme, par la loi de Moïse, comme deux grands principes. Ils sont définis par la loi de Moïse qui est reçue par le Seigneur. C'est le Seigneur qui détermine ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et c'est lui qui fixe les cadres, les limites à ne pas franchir pour celui qui veut marcher dans l'intégrité. Dans l'ensemble de ce psaume, il y a 10 conditions. Il y a 10 conditions qui sont exprimées que le fidèle intègre doit remplir. Et le fait de mettre 10 conditions et non pas 9 ou encore 11 pourrait être simplement volontaire de la part de David pour renvoyer le croyant, le fidèle, aux 10 autres, une série des autres commandements, les 10 commandements ou qui cadrent les 10 commandements qui cadrent et qui posent le cadre de la relation aussi bien avec Dieu qu'avec le prochain. Mais la différence entre les 10 conditions rappelées ici par le psalmiste et les 10 commandements est le fait que les 10 exigences ici concernent uniquement les relations avec le prochain. Aucune ne porte sur la relation avec Dieu. Au verset 2, David pose le principe qui doit présider à la vie d'un homme intègre, du fidèle qui veut être intègre, marcher dans l'intégrité, agir dans la justice. Mais David ne se contente pas simplement de donner des principes généraux. Et au verset 5, il donne deux cas concrets où le fidèle doit manifester son intégrité. Le premier, il ne doit pas donner son argent en attendant des intérêts. Et le second, il ne doit pas accepter de présent des dons contre un innocent. Même si les voisins d'Israël prêtaient l'argent avec intérêt, les Israélites ne devaient chercher aucun intérêt en prêtant de l'argent à leurs compatriotes. En effet, le livre de Deutéronome interdit formellement tout prêt à intérêt entre les Israélites. Il dit au chapitre 23, le verset 20, « Lorsque tu prêteras de l'argent, des vivres ou toute autre chose à un compatriote, vous n'exigerez pas d'intérêt de sa part. Vous pouvez exiger des intérêts lorsque vous faites un prêt à un étranger, mais vous ne prêterez pas à intérêt à vos compatriotes. Alors, le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez dans le pays où vous allez entrer et prendre possession. » C'est le prêt avec intérêt à son compatriote est interdit à tout Israélite, à plus forte raison pour celui qui veut être fidèle, qui veut être intègre dans le Seigneur. Certains systèmes éthiques de l'époque sont basés, et peut-être même de notre temps, sont basés sur ce qui procure le bonheur et l'épanouissement personnel. Et dans ces systèmes-là, exiger des intérêts, y compris à ses compatriotes, peut se justifier. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les Babyloniens, à l'époque, prêtaient leur argent avec un taux qui peut s'élever jusqu'à 33% d'intérêt. Les Assyriens font encore mieux. Il peut grimper jusqu'à 50% d'intérêt. Mais les Israélites ne peuvent pas agir ainsi avec leurs frères parce que leur éthique simplement est fondée non pas sur la base d'un épanouissement personnel, mais sur la justice de Dieu, c'est-à-dire l'épanouissement personnel, y compris comme au détriment de son frère. Mais il est fondé sur la justice de Dieu, cette justice qui est exprimée dans sa loi, dans sa parole. Le deuxième exemple concret que David donne au verset 5 de notre psaume touche aussi à l'argent. Il consiste à dire que l'homme intègre n'accepte pas des présents contre l'innocent. L'argent ne doit pas venir obscurcir les jugements de cet homme intègre. Ces jugements doivent être et rester fondés sur la justice de Dieu et non pas sur des positions sociales des uns et des autres. Il y a un avertissement très solennel à ce sujet qui est adressé aux Israélites et en particulier aux magistrats, mais ça concerne tout le monde. Vous ne fausserez pas la cour de justice, vous ne ferez pas preuve de partialité envers des personnes, vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceux-ci aveuglent même les sages, même les intelligents, et compromettent la cause des innocents. Cherchez à rendre une pleine justice afin que vous viviez, et vous conserviez la possession du pays que le Seigneur vous donne. C'est dans Deutéronome chapitre 16. Marchez dans l'intégrité, pratiquez la justice, conduit à avoir une attitude responsable vis-à-vis de son frère, de sa sœur, solidarité, impartialité. Marcher dans la justice et intégrité est aussi ce qui nous est demandé à nous, qui marchons avec le Seigneur. Nous devons faire attention de plus en plus, être attentifs pour faire le tri entre ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui est juste selon le commandement de Dieu, selon la parole de Dieu, et de ce qui ne l'est pas. Les repères bibliques qui ont marqué notre société occidentale s'effacent de plus en plus au profit de valeurs qui s'inscrivent plus, qui sont plus le fruit d'un consensus général. Et souvent, ce consensus général est très éloigné de la vision biblique des choses, de ce que la Bible appelle justice. Il arrive parfois que le consensus général considère ce que la Bible appelle injuste comme juste et considère ce que la Bible appelle injuste comme juste. Donc, nous devons faire attention et veiller, me semble-t-il, à cela. Il nous faut examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu pour continuer à n'appeler juste que ce qu'il est réellement, ce qui est défini par le Seigneur. Marcher dans la justice et intégrité, dans la justice et dans l'intégrité, c'est faire attention aussi à toute forme de favoritisme, même les plus subtils dans nos relations, aussi bien d'ailleurs à l'intérieur de la famille de Dieu qu'à l'extérieur dans la société. Nous devons là aussi être vigilants pour imiter l'exemple de cet homme intègre qui nous est présenté ici, dans au psaume 15. L'épître de Jacques nous adresse bien des avertissements à cet égard. Enfin, marcher dans la justice et l'intégrité, c'est aussi manifester la solidarité fraternelle. Une solidarité sur le plan, bien sûr, spirituel, dans la prière, dans l'accompagnement d'un frère, d'une sœur, d'être présent par la présence, mais aussi une solidarité sur le plan matériel, être sensible aux besoins de notre frère, de notre sœur, et lui venir en aide autant que nous le pouvons. Et à cet effet, l'apôtre Jacques, là aussi, nous laisse un très bon exemple qui peut même se rencontrer parmi nous. Il dit au chapitre 2, « Supposez-vous qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas de quoi, il n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un d'entre vous lui dise, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. Jacques poursuit en disant, à quoi cela sert-il? Notre solidarité fraternelle doit tenir compte de la personne dans sa globalité et non pas se limiter uniquement à ce qui pourrait être, d'ailleurs à tort, qualifié strictement de spirituel. Car il n'y a pas de plus spirituel que de venir en aide matérielle aussi à un frère ou une sœur dans le besoin. L'homme intègre de notre psaume sait manifester cette solidarité nécessaire et agir avec justice pour que le faible ne souffre pas, mais jouit du bonheur qui doit régner au sein du peuple de Dieu. En plus de ses actes, l'homme de notre psaume est aussi intègre dans ses paroles. Il dit la vérité dans son cœur et non pas des lèvres seulement. C'est au verset 2, toute la finale du verset 2. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne se désengage pas pour une question d'intérêt personnel, mais tient ses engagements même lorsque ceux-ci lui sont défavorables. Le fidèle de notre psaume proclame la vérité dans son cœur, avec conviction. Il ne se laisse pas porter par le vent de mensonges ou de rumeurs, mais bien au contraire, il veille, il sert la vérité. Il ne permet pas à sa langue de proférer des mensonges pour mener la vie communautaire, pour fausser les relations entre les uns et les autres et porter des coups durs à la confiance. Au contraire, il proclame la vérité pour consolider la communion fraternelle, pour cultiver des relations bienheureuses, pour nourrir des relations riches et profondes au sein de la communauté du peuple de Dieu. Notre homme ne laisse pas ses propres intérêts aussi le faire dévier de ses engagements. Il y tient même lorsqu'ils sont défavorables ou lorsque la situation devient défavorable à son égard. Nous pouvons compter sur un tel homme, nous pouvons compter sur lui. Enfin, il ne donne pas un libre cours à sa langue, il ne laisse pas sa langue condamner, calomnier son prochain, il la maîtrise, la contrôle, il la soumet à la loi du Seigneur. L'homme de notre psaume ne livre pas sa langue pour des paroles blessantes, mais bien au contraire, il l'exerce pour des paroles encourageantes, pour des paroles constructives qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Le livre des Proverbes dit en effet avec force la puissance de la langue, cette puissance qui peut être même un instrument pour semer la vie ou pour semer la mort. La mort et la vie, dit le Proverbe 18, sont au pouvoir de la langue. Et l'apôtre Jacques ne dira pas moins dans son épître, de la même bouche sortent des bénédictions pour le Seigneur, mais aussi des malédictions. Mes frères, qu'il n'en soit pas. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. L'homme intègre, donc, de notre psaume, maîtrise sa langue. Et nous, est-ce que nous maîtrisons notre langue? Est-ce que nous la mettons au service de la vérité? Ou bien nous lui laissons libre cours pour dire des mensonges, des calomnies, des choses qui ne contribuent pas à la construction, à l'édification de nos frères et sœurs, mais bien au contraire, qui minent davantage la communion fraternelle, les relations entre les uns et les autres. Il nous faut nous examiner là aussi et faire le point sur toutes nos paroles encourageantes, bénissantes, prononcées au cours de la semaine passée, au cours des derniers jours. Mais aussi, il nous faut faire le bilan de toutes ces paroles, peut-être qui n'ont pas été ni à la gloire de Dieu, ni à l'édification de nos frères et sœurs, pour demander au Seigneur de nous pardonner et de prendre les dispositions nécessaires pour faire attention. Que le Seigneur nous accorde la grâce de tirer de bonnes conclusions pour avancer dans sa volonté pour nous. Au centre de ce psaume, c'est-à-dire au verset 4, la première partie de verset 4, au centre de ce psaume, David associe l'action à la parole qui doivent être en harmonie avec, dans la vie de l'homme intègre, dans la vie du fidèle. Rejeter, le réprouver, le mépriser, comme le traduit la Bible, l'homme vil, la semeur, l'homme que le Seigneur désapprouve, de l'autre côté, honorer ceux qui craignent le Seigneur, qui respectent sa loi. Pourquoi fuir ? Pour ne pas dire rejeter, la compagnie de ceux qui rejettent et méprisent la loi de Dieu. La compagnie régulière de ceux qui méprisent la loi de Dieu ne peut qu'être, peut être néfaste, pardon, pour le fidèle du Seigneur. Et souvent on dit pour éviter le feu, il vaut mieux se tenir loin du brasier. Le livre des psaumes commence d'abord avec le premier psaume, et il commence par indiquer l'homme heureux et celui, c'est-à-dire l'homme selon Dieu, et celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et ces trois phrases disent avec force les attitudes qui menacent le fidèle qui veut marcher selon le Seigneur, d'où l'exhortation à éviter de telles fréquentations pour ne pas nous retrouver nous-mêmes loin du Seigneur et loin de sa volonté pour nous. Nous ne devons pas oublier que l'éloignement de Dieu commence toujours par des petits écarts, des petites concessions, jusqu'à nous retrouver tout simplement sous des influences contraires à celles de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Et si rien n'est fait, ces éloignements, ces petits éloignements peuvent conduire simplement à un style de vie qui est loin, loin de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et si rien n'est fait, c'est un style de vie qui s'installe dans notre vie, un style de vie simplement loin de Dieu. Voilà pourquoi le fidèle du Seigneur repousse celui qui rejette le commandement du Seigneur. Par contre, il honore ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi du Seigneur, qui la méditent jour et nuit, pour reprendre un peu le psaume 1, pour résister aux influences qui peuvent nous éloigner du Seigneur. En effet, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu, de la laisser transformer notre pensée, notre intelligence et discerner ce qui est bon, agréable, parfait de la volonté de Dieu pour nous. Méditer, mettre la parole de Dieu en pratique, nous place au cœur même de sa sainte et bonne volonté pour nous. Méditer et mettre en pratique la parole de Dieu nous conduisent à aimer le Seigneur et à aimer le prochain. Ceux qui sont habités par la crainte du Seigneur sont dignes d'honneur, de considération, de respect de la part du fidèle du Seigneur. Honorer le juste, fuir le méchant, méditer la parole du Seigneur, fuir la méchanceté, c'est aussi cela que le Seigneur nous demande à nous croyants. Il faut examiner nos relations, nos fréquentations. Bien sûr, je parle vraiment des fréquentations et je ne parle pas des relations que nous sommes encouragés à développer avec autant de personnes que cela est possible, ne serait-ce que pour le témoignage, il laissait aussi, il laissait voir la lumière et la grâce de Dieu dans notre vie, voir la gloire de l'Évangile. Mais il nous faut examiner nos fréquentations. Il nous faut examiner nos fréquentations et voir si l'une ou l'autre n'est pas en train de nous empêcher de bloquer notre marche avec le Seigneur. Et il nous faut, me semble-t-il, être lucide sur ce point. N'être lucide et ne pas attendre jusqu'à ce que ce soit trop tard. Il y a quelques années de cela, un jeune chrétien, issu d'une église bien évangélique, voulait venir faire le séminaire d'islamologie à l'Institut public de Nogent. Au début de l'été, au mois de juillet, il y a toujours un séminaire, une semaine de séminaire d'islamologie. Et parmi les motivations qu'il avait évoquées, c'est qu'il voulait connaître un peu plus l'islam et savoir comment témoigner à sa copine qui est musulmane. Très bonne initiative. Chose que nous avons encouragée très fortement. Quelques jours avant le début du séminaire, juste quelques jours, nous avons reçu un courrier de ce frère, enfin de ce monsieur, nous disant que simplement il s'est converti à l'islam. Et qu'il n'allait pas, bien entendu, venir donc pour le séminaire. J'ai pris cet exemple, mais je pense que chacun d'entre nous peut prendre d'autres exemples et voir si toutes nos relations nous encouragent, nous permettent de nous approcher du Seigneur, de manifester la lumière du Seigneur. Et je ne parle pas simplement des relations exclusives entre chrétiens, je parle vraiment des relations avec tout le monde, y compris les non-chrétiens, surtout avec les non-chrétiens. Il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il y a des relations, qu'elles soient d'ailleurs amicales ou même familiales ou autres, qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur, nous sommes invités à prendre nos dispositions, me semble-t-il. Et même lorsque cette relation, je fonce un peu le clou, tant pis, même lorsque cette relation concerne l'un de nos plus proches, même un membre de la famille, nous devons tirer conclusion. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi, nous dit le Seigneur, n'est pas digne de moi. Celui qui reste intègre est au bénéfice d'une belle promesse de la part du Seigneur. Il ne chancellera jamais. L'homme intègre de notre psaume peut demeurer tranquillement dans la maison du Seigneur. Rien ne pourra l'ébranler. Rien ne pourra l'ébranler, car le Seigneur sera son refuge, son abri. Le Seigneur sera pour lui sa protection et sa sécurité. Et c'est ce que dira David aussi au psaume 61. « Tu es pour moi, il dira au Seigneur, bien entendu, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux, tu donnes l'héritage à ceux qui craignent ton nom. » écrit David au psaume 61. Qui peut avoir accès à la présence du Seigneur? Qui peut demeurer auprès du Seigneur? Personne par ses propres moyens, par sa propre détermination, par son propre zèle religieux. Car nous sommes tous marqués par le péché et rendus incapables de plaire à Dieu, incapables de satisfaire à l'exigence de cet homme intègre de notre psaume. Le seul qui a pu satisfaire ces exigences, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a pu le satisfaire. Et d'ailleurs, David, au psaume 14, donc le psaume juste qui précède le psaume 15, au verset 3, il le dit, « Qui cherche Dieu ? Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » dit David au psaume 14, juste le psaume qui précède notre psaume. Et au psaume 15, il nous présente l'homme selon le Seigneur. Face à ce constat, que personne ne peut plaire au Seigneur par ses propres ressources, les religions s'affolent, multiplient leurs pratiques, multiplient leurs rites pour gagner Dieu, la présence de Dieu, mais tout cela, c'est en vain. Comme l'homme est incapable de gagner Dieu, et bien c'est Dieu qui a décidé de venir nous gagner, nous chercher en Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous pouvons nous approcher de trône de la grâce de notre Dieu et nous approcher en toute liberté, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est en Jésus et en Jésus seul que nous pouvons venir dans la présence de Dieu sans risquer ce que d'autres ont risqué, quelques cas en tout cas dans l'Ancien Testament, qui nous sont rapportés dans l'Ancien Testament. C'est en Jésus que nous sommes pardonnés, que nous sommes lavés, que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Lorsque le prophète Isaïe disait « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures », le Seigneur est venu, lui a enlevé sa faute, son péché. C'est cela aussi que le Seigneur a fait pour nous, dans notre vie. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, le Seigneur enlève notre faute, enlève notre péché, enlève l'obstacle, ce qui nous empêchait de venir dans la présence du Seigneur et nous ouvrait les portes de sa présence. Mais c'est en Jésus et en Jésus seul que nous pouvons être pardonnés, lavés, déclarés justes devant Dieu. Par l'Esprit, le Seigneur nous transforme, nous façonne et nous rend capables de marcher sur les traces de cet homme intègre de notre psaume. Le Seigneur nous façonne par son Esprit pour ressembler à Christ qui lui a pleinement vécu totalement et dans l'absolu ces exigences qui sont évoquées ici dans ce psaume 15. Le Seigneur continue à façonner le Christ dans notre vie par son Esprit. Par son Esprit, le Seigneur déverse son amour dans notre cœur, aussi bien envers Dieu qu'envers notre prochain, pour aimer Dieu et aimer le prochain. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole, son commandement. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur sans aimer son commandement, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean. Si nous pouvons venir demeurer dans la présence du Seigneur, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvres que nous aurions accompli, écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2. Personne n'a donc de raison de se vanter, ce que nous sommes, nous le devons à notre Dieu. De ceux qui veulent être au bénéfice de la présence du Seigneur, de la présence de Dieu dans leur vie, peuvent venir simplement et humblement vers Jésus-Christ qui promet de ne rejeter personne et d'accueillir tout ce qui vient à lui. Il le dit, il l'a dit de plusieurs manières et à plusieurs occasions, à plusieurs reprises. Et encore cette parole qui est retentie dans l'évangile de Matthieu, « Venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, et même si vous n'êtes pas fatigués et chargés. » À vrai dire, vous pouvez l'être, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, parce que le péché, comment ne pas être fatigué et chargé lorsqu'on vit sous la condamnation et sous le poids du péché. Mais, ceci dit, nous pourrions être un peu moins conscients de notre péché à cause de notre habitude, de l'habitude qu'on prend avec le péché. Mais malgré cela, « Venez à moi, dit Jésus, » et je vous donnerai du repos, je vous donnerai de la paix de l'âme que personne, rien ne peut vous offrir. Voilà l'invitation que Jésus nous adresse à tous, et nous pouvons tous venir à lui. Une invitation qui est adressée pour ceux qui veulent venir pour la première fois à Christ, mais elle nous est adressée à nous aussi, qui avons toujours besoin de venir, de revenir vers le Seigneur, car malgré toute l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie depuis notre cheminement avec le Seigneur, malgré toute la lumière de la parole de Dieu que la parole de Dieu nous a apportée depuis notre cheminement avec le Seigneur, il nous arrive encore, et hélas, d'attrister le cœur du Seigneur, de pécher contre lui et de nous voir quand même un peu loin de ce portrait qui nous est décrit dans ce psaume 15. Et là encore, le Seigneur nous invite à revenir vers lui, à nous accorder son repos. Et il nous promet de nous façonner, de nous transformer petit à petit pour qu'un jour nous puissions lui ressembler, pour qu'un jour Christ soit formé pleinement en nous par sa parole et par son esprit. Que personne donc ne se prive de la grâce de notre Dieu, que personne ne se prive de la présence de notre Dieu. Amen.